On a avec nous le député du Madawaska Restigouche, M. René Arsenault, en studio. Ça va bien, M. Arsenault?
Ça va bien, Sébastien, surtout que je suis député sortant, donc il me reste un autre lundi, jusqu'au 28 avril, en fait, où je ne serai plus député après ça.
On va faire un petit retour sur votre carrière. Pourquoi vous avoir été en politique en 2015?
La raison numéro un, il y en a plusieurs, mais la plus importante de toutes, c'est que moi, je suis été étudié à l'extérieur, comme tout le monde. Je suis revenu après mes études, puis c'était certain que j'allais faire ma carrière dans mon patelin, donc dans le nord du Nouveau-Brunswick, au Restigouche. Puis je voyais très bien à quel point il y avait un exode qui était qu'on ne pouvait pas arrêter, un exode des jeunes vers les grandes villes, vers Moncton, Québec, Ottawa, Montréal. On perdait nos jeunes partout. La circonscription se vidait. Notre population, donc, vieillissait par défaut automatiquement. Donc, on perdait, les écoles diminuaient, les taux d'élèves par classe diminuaient. On perdait des emplois, nos écoles rapetissaient. C'est ce qui m'obsédait. Je me dis, comment ça se fait qu'on ne peut pas retenir nos jeunes ici puis mettre un terme à ça, à cet exode des jeunes? Donc, la raison première, c'est d'aller faire mon petit bout de chemin pour essayer de que le Madawaska Restigouche tire son épingle du jeu pour du développement économique. Avec développement économique, bon travail, bon boulot, ben t'as des bons jeunes qui restent.
Pourquoi le fédéral? Et pourquoi pas le provincial ou même le municipal? Vous avez fait le grand saut en partant.
Écoutez, c'était un concours de circonstances. De un, quand j'étais très jeune, je fais un petit retour en arrière, là. J'étais très jeune, dans la mi-vingtaine, pas encore 30 ans en tout cas, je me suis fait approcher pour faire de la politique fédérale. Mon épouse était enceinte, on allait avoir des enfants, puis je me disais, il n'est pas question que je fasse de la politique, je ne verrais pas mes enfants grandir. C'était mon réflexe, puis ça arrêtait là. Plus jamais je n'ai repensé à la politique après ça. Ensuite est venue la politique en 2014. Mes amis, je lui ai dit, mon bon ami Gilles Lepage se fait élire en 2014, tout excité au provincial. L'élection provinciale a eu lieu. Un ami à moi m'approche après ces élections provinciales-là pour me dire, René, il y a une élection fédérale qui s'en vient. Donc, celle au provincial, ça venait tout juste d'avoir lieu. Là, en septembre, si ma mémoire est bonne, c'était septembre 2014. Puis, j'étais déjà en réflexion, presque 24 ans en droit. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Puis, je pensais, je vais explorer l'idée. Et puis, j'ai fait le tour des choses. J'ai analysé les plus, les contre. Mes enfants étaient... J'en avais deux déjà à l'université. Le plus jeune s'en allait à l'université Sainte-Anne en septembre suivant les élections. J'ai fait tout ce calcul-là. Mes enfants sont relativement indépendants. Pourquoi pas? Donc, c'est comme ça que j'ai fait le saut. Mais en ayant en tête ce que je te disais tantôt, c'est d'essayer de tirer notre épingle du jeu, que les gros projets de développement économique ne tombent pas seulement qu'à Montréal, à Toronto, à Vancouver, qu'on ait notre part du gâteau ici avec des bons emplois. Ça veut dire maintenir, retenir nos jeunes, puis peut-être même mieux, repatrier ceux qui sont partis et qui voudraient revenir.
Monsieur Arsenault, pendant 10 ans, vous avez œuvré en tant que député du Madawaska Restigouche. Vous avez fait venir ici de beaux projets, de belles sommes d'argent. Vous êtes fier de...
Oui, je suis fier de ça. Je suis fier de ça, mais je ne peux pas être fier tout seul. Je suis d'abord fier par ceux qui ont fait la promotion de ces projets-là. Vous savez, un député fédéral, je l'ai souvent dit dans mes discours lorsque je faisais une annonce d'un projet qu'on amenait ici, je me sens un petit peu comme le Père Noël. J'amène des cadeaux, mais c'est pas le député fédéral qui tout seul arrive à faire ça. Oui, on peut mettre notre nez dans un projet pour faire sûr qu'on retient l'attention des bureaucrates et que le projet tombe chez nous. Mais avant que tout ça se fasse, il faut que nos municipalités, nos entreprises, nos organismes à but non lucratif font la demande de ces projets-là. Il faut que les projets soient crédibles. Puis dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a un projet qui est tombé dans le Madawaska Restigouche, c'est parce que ceux qui en faisaient la demande étaient des gens ou des organismes ou des municipalités extrêmement crédibles.
Je vous entendais parler sur un Facebook du Camp Kanak.
Le Camp Kanak, c'est mon... Écoute, j'ai plein de beaux projets, je n'ai plein, là.
Oui.
Mais le Camp Kanak, je l'ai tatoué sur le cœur parce que j'en parle, j'ai encore un petit peu d'émotion. Le Camp Kanak, c'est un camp, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui a existé à peu près 30 ans jusqu'au milieu des années 2015, à peu près plus ou moins, à peu près dans le temps de mes élections 2015. 30 ans avant, ça avait existé. C'était un camp qui était destiné à aider les enfants lourdement handicapés, physiques et ou intellectuels, ou les deux. En fait, c'était une façon cachée de donner une pause aux parents. On parle des enfants qui sont handicapés, qui ne sont pas placés, que les parents doivent s'en occuper 7 jours sur 7, 24 sur 24. Le camp était une excuse, le camp pour ces enfants-là était une excuse pour donner une pause aux parents. C'est ça que c'était. Ça existait pendant 30 ans avec des anges. J'appelle des anges tous ces gens-là qui, pendant 30 ans, se sont occupés de ces jeunes-là lourdement handicapés. C'est comme ça que c'était. Puis ça se donnait de façon bilingue. Puis ça se donnait... C'est le seul qui parle en français dans ce genre d'expertise-là. Il n'y en a pas beaucoup en Atlantique. Il y a peut-être deux camps comme le Camp Kanak. Il a fermé pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que c'était c'était tellement devenu populaire et ça avait tellement pris d'importance qu'on avait raccommodé des bouts de camp avec des bouts de bâtiments pour faire ce camp-là au fil des années. Puis ça ne rencontrait plus les critères du prévôt des incendies, qui est normal. Les portes, la largeur des portes, l'espace, les évacuations, les fameux gicleurs au plafond, il n'y avait rien de ça. Donc, c'était plus assurable. Ils ont dû fermer pendant 10 ans. Et j'ai été mis au fait de ce camp-là, que je ne connaissais pas, de tout ce travail-là qu'ils faisaient pour soulager des parents qui n'ont pas d'aide de personne, qui doivent avoir leurs enfants avec eux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je me suis mis à y travailler. J'avais une ministre dans le temps avec qui j'étais lié d'amitié, qui était elle-même handicapée. Elle était aveugle ou presque aveugle. Et puis Carla Cultrow, pour la nommer, c'était la ministre là, qui avait des lunettes épaisses. Elle a fait les Olympiques, les Paralympiques elle, dans le passé. Donc, elle était presque aveugle d'un œil complètement, puis elle me disait à peine 10% de l'autre œil. Puis, je l'avais sensibilisée au projet. Puis, finalement, on avait fait une première demande, très bien organisée, très bien montée. Ça n'avait pas réussi. J'étais pas d'accord avec la décision qu'on n'avait pas réussi à décrocher l'argent pour rebâtir à neuf un camp Kanak moderne. À un moment donné, je me suis assis avec les fonctionnaires, puis je leur ai dit, dites-moi, il y a d'autres personnes qui ont eu ces projets-là là, au Canada, là, avec les mêmes fonds. Moi, notre projet, on ne l'a pas eu. Dites-moi qui fait mieux dans sa demande que le camp Kanak. Et je vous dis qu'est-ce qu'ils avaient. Ils avaient M. Eddy Savoie des Résidences Soleil, qu'on voit des annonces québécoises. Les Résidences Soleil, M. Eddy Savoie, est originaire de Kedgewick. Il avait fait un fonds soleil dans lequel il avait amassé plus ou moins 200 000 $ pour le fonds de roulement du camp Kanak. Sachant, lui, il ne faisait pas un don pour construire le camp Kanak. Il disait, allez voir ailleurs, moi, je vous assure un fonds de roulement au début. Il y avait aussi des donateurs alentour. Il y avait la Caisse populaire du temps, quand c'était encore la Caisse populaire, qui s'était engagée en disant, nous, tous les financements intérimaires, on est derrière les yeux fermés parce qu'on connaît le bureau de direction du camp Kanak, les bénévoles, c'est des gens crédibles. J'avais un dossier en béton, en or même, que je dirais. Alors, quand je suis retourné voir les bureaucrates qui avaient refusé cette année-là de me donner le projet, j'ai dit, je vais voir et comparer avec les autres projets. Comment ils ont pu qualifier mieux que ça? Je connais aucun projet, moi, que tout le monde a déjà les fonds de roulement, a déjà tout ça autour d'eux pour faire une demande de projet. Ça a pris 2 semaines, ils sont revenus me voir. Puis pour l'Atlantique, je me souviendrai toujours, il y avait 2,1 millions total à déverser pour ces programmes-là, cette année-là. Sur ce 2,1 millions-là, il y a eu 14 projets qui ont été accordés dans l'Atlantique. Un de ces 14-là, c'était le camp Kanak, puis on l'a eu pour chiffre rond. 900 000 $ sur le 2,1 million divisé en 14 projets, nous, on a eu notre part à 900 000 $ Vous montrez à quel point le projet était crédible. Ça m'a fait tellement plaisir d'annoncer. Les gens criaient, les bénévoles sur le conseil d'administration, les gens criaient là, de joie. On allait ressusciter après 10 ans de fermeture ce camp Kanak. Et si vous passez à Kedgewick, quand on voit les beaux lacs, là, où est le gros orignal, c'est derrière ces lacs-là, dans les épinettes, il y a un gros building brun. Allez visiter ça, c'est extraordinaire. Et le camp Kanak est tellement, comment je dirais, il rend tellement, comment je dirais ça, il rend tellement son utilité importante que maintenant il est ouvert 4 saisons, 12 mois par année. Il intègre des enfants, oui, qui sont lourdement handicapés, intellectuels et ou physiques, mais aussi des adultes. Il y a aussi des sessions d'adultes dépendant de la saison. Donc, pour moi, c'est un projet de développement socio-économique. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est un des plus beaux projets.
Vous avez encore investi aussi d'autres argent récemment là, dans le camp Kanak.
Oui, par la suite, il y a d'autres argent pour le contenu, l'électronique, tout ça. Mmh. Il y a une chambre il y a une chambre d'exercice là, hyper moderne aussi qu'on a investi dedans. Mais il y a aussi beaucoup de bénévoles, beaucoup de donateurs qui ont investi de l'argent. C'était préparé en béton, ça, cette demande-là. Il manquait que le gouvernement provincial du temps, c'est pas engagé. Mais on se souvient du gouvernement du temps. Mais le gouvernement fédéral a été généreux, mais parce que c'était un projet crédible. C'était pas gratuit. On n'a pas juste donné ça comme ça. C'est parce que ça avait une mission à accomplir dans le développement socio-économique. Je dis développement socio-économique. J'insiste sur le socio parce que c'est pas sexy dans les gouvernements de faire du développement socio-économique. Ce qui est sexy, c'est de construire une entreprise, l'industriel, puis c'est bien. Ça crée des emplois. Ça, c'est, tu sais, bon, construire une entreprise qui va embaucher 200 personnes. Mais du socio-économique, s'occuper des plus démunis, s'occuper des miséreux, c'est pas quelque chose qui est sexy. Mais ça, le gouvernement, puis ma ministre, qui était, je le rappelle encore une fois, qui était elle aussi souffrait d'un handicap, avait très bien compris. Donc bravo à toute l'équipe du camp Kanak, puis je suis vraiment fier de ce projet-là.
Monsieur Arsenault, pendant 10 ans, politicien, Ça se termine bientôt. Qu'est-ce qu'on fait?
Ben moi, j'ai plusieurs options sur la table. J'essaie de respirer un peu. Là, je suis pas mal impliqué dans la campagne de mon remplaçant Guillaume, qui est un, mon Dieu, c'est pas gênant de présenter ce candidat-là pour le Madawaska Aristigouche. Donc, je suis très impliqué dans la campagne électorale. Je dois fermer mes affaires, mes bureaux, tout ça aussi. J'ai beaucoup de travail comme député par rapport à Ottawa, des choses à accomplir pour fermer tout ça, là, mettre une fin à ça. Qu'est-ce que je fais après? Je prends une petite pause de 2 semaines, 1 mois, puis après ça, je retourne travailler. J'ai quelques options devant moi, mais ce sera certainement dans le domaine juridique. Soit le domaine juridique à titre de consultant ou d'expert, pour, disons, une firme, une entreprise, ou soit à titre d'avocat conseil pour une firme ou une entreprise. Donc, j'ai 2 options qui se dessinent devant moi. J'en ai d'autres, mais 2 sérieuses, puis ça sera une ou l'autre. C'est à moi de choisir. Je suis encore dans l'ambivalence.
Un petit peu de voile avec ça?
Je vais certainement faire du voilier cet été. Ça fait 8 ans que je n'ai pas pu sortir mon petit voilier. Puis du kayak aussi sur la rivière Estigouche. Les gens ne réalisent pas, mais ça fait 10 ans que 7 mois par année, donc 7 mois par année, je ne couche pas chez moi. Donc, il y a des soirs que je vais être chez nous, je vais faire de la musique, on va faire du voilier, puis je vais bénéficier de mes amis. Tu sais, j'ai pas perdu mes amis, j'ai des amis, ça sera toujours des amis, mais je les ai beaucoup moins vus. Ça a un impact sur sa vie familiale, sa vie sociale, si on veut. Donc, je viens renouer avec les Cousins du Nord, par exemple, avec Michel Arsenault. On recommence à faire de la musique, juste pour nous, juste pour s'amuser. Je vais commencer à vivre comme était René Arsenault avant de devenir député. Et je dis ça sans goût amer de mes 10 ans politiques, c'était une expérience extraordinaire.
Monsieur Arsenault, merci beaucoup d'avoir passé en studio.
Merci, puis merci à tous ceux et celles qui, au cours des 10 ans, m'ont encouragé ou ont participé avec moi à amener des projets chez nous dans le Madawaska-Aristigouche. Merci beaucoup.